Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Le frère Abdul Majid, c'est moi le frère en question qui t'ai envoyé la lettre tout à l'heure. Mon frère, il y a des fois, lorsqu'on entend certains propos et certaines expressions de la bouche des gens comme vous, qui est connu, même si nous ne disons pas sur le plan international, nous voulons au moins dire sur le plan intercontinental ou bien sur le continent africain plus précisément. Lorsqu'il y a certains propos qu'on entend venant de vous, l'homme qui a la jalousie pour sa religion doit forcément chercher, faire tout et tout de contacter la personne en question. Et en écoutant certains propos dans cet audio des 14 minutes et quelque chose que je vous ai balancé là, et j'ai écouté des propos offensifs et défensifs en même temps. J'ai su que peut-être tu es acculé par certains frères, pressé par certains frères, parce que d'après ces audios, d'après cet audio, c'est comme si tu es en train d'échanger avec un frère. Mais notre objectif, vous et moi aussi, c'est de chercher où est la vérité et de suivre cette vérité et de la faire avancer. Et à vrai dire, mon frère Abdul Majid, le paradis n'est ni pour moi ni pour toi, et l'enfer également. Si tu me vois aller en enfer, tu n'auras rien à profiter, et vice versa. Et le paradis est grandement vaste, au point où moi seul, ou bien seulement les Africains, ne peuvent pas le suffire. Donc tous nos souhaits, c'est de nous voir un jour réunis et rassemblés dans le paradis, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Et comme tu connais très bien plus que moi, que ce paradis, l'on ne peut trouver, sauf s'il a emprunté le chemin de la vérité, et le chemin de la vérité un et un seul, unique et un seul, il n'y a pas deux chemins de la vérité. Ce qui me pousse à te faire cet audio, mon frère, et c'est parce que au cours de ton enregistrement, ou bien au cours de tes propos dans cet audio, tu as dit que tu es prêt à reconnaître tes erreurs et à les rectifier. C'est une bonne chose. C'est un bon comportement chez tout musulman, car la vérité est comme une perle ou bien un bien égaré d'un musulman où il cherche n'importe où il trouve. S'il est sincère, Allah, ici vous êtes sincère sur la parole que vous venez de dire, là ça va nous profiter, car te faire profiter, c'est le profit de tous les musulmans, c'est le profit de toute la communauté. Suivre la vérité, reconnaître ses erreurs et rectifier ses erreurs, c'est le souhait de tout un musulman, le souhait de tout prédicateur. Voilà l'une de tes paroles dans cet audio qui m'a poussé à chercher votre numéro, à vous contacter directement, en essayant aussi de ma part et de mon côté de t'édifier, d'énumérer, de t'expliquer aussi quelque chose selon mon petit niveau. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la compréhension.
Mais il faut qu'on se raconte face à face. En ce moment, vous me donnez des preuves, vous me montrez noir sur blanc que non, là, vous êtes dans l'erreur. Wallahi billah, si je suis dans l'erreur, moi, je ne suis pas comme vous. Je vais le reconnaître. Je vais le reconnaître, mon frère. Oui, là, oui, ou en tout cas, là, j'étais dans l'erreur. Oui, là, ici, j'ai dit ça, mais par après, j'ai compris que j'étais là. Moi, je suis comme ça, mon frère. Je ne souffre d'aucun complexe comme vous. Quand vous êtes en train de raconter ça, non, vous avez parlé des musulmans, mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous montrer maintenant la différence qui existe entre une tendance et l'islam. Acceptez les débats. Parce que vous parlez, non, la relation musulmane ne suffit pas. Il y a cela, quelqu'un, Ahmadiyya, tout ça. Vous pensez que tous ces jours qui disent ces choses-là, tout ce qu'ils ont raconté, Dieu ne le savait pas. Mais pourquoi Dieu s'est-il arrêté à dire ça que oh, vous avez été appelé de musulmans? Pourquoi? Quelle est la hikma qui est là? Vous pensez que tout le monde est d'accord avec l'explication d'Albani? Albani, c'est un être humain. Nous, on suit l'explication de Dieu et de son prophète. Nous, on ne suit pas l'explication des gens, mon frère. On ne peut accepter l'explication d'une personne que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec l'esprit de l'enseignement qui a été donné par Dieu et son prophète. Sans pourtant que nous nous disions qu'ils ont tort. Non! Parce qu'effectivement, il y a des Ahmadiyya, il y a des ceci, cela, il y a des ceci, cela. Ça existe. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis un accent sur cette appellation seulement? Pourquoi le prophète n'a jamais utilisé une autre appellation que celle-là? Et pourquoi devons-nous toujours utiliser cette appellation-là? Eh bien, tout en tenant, tout en regardant également nos différences. Mais pourquoi? Quelle est la sagesse divine qui est cachée dans cette appellation et qui doit contribuer à unir les musulmans? Mais acceptez les débats, non? C'est simple, non? Parce que vous êtes comme des boucs moutonniers. Moi, je ne suis pas un bouc moutonnier. Je ne suis pas un bouc moutonnier.
Quand tu dis dans cette coupure d'audio que je vous ai coupée, que Dieu ne savait-il pas qu'il y aura la divergence, la division, etc., etc., qu'il y aura les différents sectes, etc., et pourquoi il a toujours appelé les musulmans? Je ne sais pas, d'après ce que les musulmans vivent aujourd'hui, et il y a parmi les prédicateurs, soit même parmi les Ahlus Sunnah ou Jama'a ou bien les Salafiyas, qui sort certains secteurs de l'islam directement en leur disant que tu n'es plus musulman. Ce nom-là résiste toujours. Ce nom-là existe toujours et il est toujours là. Le nom musulman qu'Allah nous a surnommé dans le Coran existe toujours et les musulmans sont toujours surnommés par ce nom-là. Je ne sais pas s'il y a un prédicateur qui prompt la disparition de cette appellation. Puis, dans cet audio, mon frère, tu dis, tu n'es pas un bouc moutonnier, car tu ne suis que ce que dit le Coran et ce que dit le prophète et la parole d'un érudit qui suit ces deux sources de référence reconnues par l'unanimité chez les musulmans. C'est bien beau. C'est bien beau, parce que dans le Coran, Allah nous dit toujours « Afala tatafakaroun, afala tatazakaroun, afala ta'akiloun ». Allah nous a répété maintes fois dans le Coran, « Ne réfléchissez-vous pas, vous ne méditez pas, vous n'êtes. » Un musulman, comme vous venez de dire, ne doit pas être un bouc moutonnier. C'est bien beau, mon frère. Mais si nous revenons un peu dans le Coran, dans le Sourate les Romains, par exemple, verset 31-32, Allah s'adresse, bien sûr, à nous les musulmans, et nous mettre en garde contre un déroutement dans lequel est tombé ou bien sont tombées les communautés précédentes. Allah dit, revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas les associateurs. Ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Ces mises en garde s'adressent à qui? Ça s'adresse à nous, les musulmans. Est-ce que les musulmans ont mis cette parole d'Allah en pratique au point où ils ne se sont pas divisés? Ou bien les musulmans se sont divisés? Ou bien les musulmans devaient-ils se diviser? C'est les hadiths du prophète alayhi salat wa salam qui peuvent nous répondre à ce genre de questions. Parce que nous ne pouvons rien comprendre si nous n'acceptons pas la réalité et l'actualité. Il est venu dans l'hadith de Khabbab ibn Urs. Il dit, j'ai gardé le prophète alayhi salat wa salam de vue une nuit durant sa prière nocturne jusqu'au matin. Lorsque le prophète alayhi salam a fait la salam finale de sa prière, Khabbab dit, je suis venu auprès du prophète, je lui ai dit, au messager d'Allah, je peux sacrifier mon père et ma mère pour toi. Tu as accompli dans cette nuit une prière que je n'étais jamais vue accompli une prière comme celle-là. Le prophète dit, si, c'est une prière de peur et de l'espoir. J'ai demandé trois choses à mon Seigneur. Mon Seigneur m'a accordé deux de ces trois et il m'a défendu une de ces trois choses. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir ma communauté comme il le faisait avec la communauté, les communautés précédentes. Mon Seigneur me l'a accordé cela. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas donner la domination aux incrédules afin d'envahir et de dominer une fois la communauté musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé cela. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas laisser ma communauté se diviser en sectes, mais Allah ne m'a pas donné cela. Si nous comprenons ici, ça veut dire la sunna d'Allah, l'administration d'Allah, l'habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté et que cette communauté va se diviser. Mais lorsque le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, cette prédication révélative qui fait partie des signes de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « Innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira » Quiconque parmi vous, mes compagnons, vivra longtemps après moi, verra des divisions. Je crois que ces deux hadiths, mon frère, ne peuvent en aucun cas laisser un musulman prétendre ou bien penser encore que les musulmans devaient rester unis sans se diviser. Ou bien ne se sont même pas encore divisés. Non. Le destin d'Allah a été déjà décrété que cette communauté va se diviser. Et le prophète a même prédit cela que cette communauté va se diviser. Mais lorsque le prophète nous a prédit cela, il ne nous a pas abandonné, laissé à mi-chemin. Il nous a montré quel sera le chemin de la réussite, le moment de la division. Il a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidi. Je vous recommande le moment là, ma tradition, mon chemin, ma coutume et celle de mes successeurs bien guidés. C'est pour ça, mon frère, les compagnons à leur tour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam les a dit un jour que cette communauté se divisera en 73 sectes, je dis bien, les musulmans se diviseront en 73 sectes et tous ces 72 sectes iront en enfer, sauf une seule secte ou bien un seul groupe. N'est-ce pas, ça fait peur? Lorsque le prophète dit tous ces 72 iront en enfer, ne savait-il pas que ce sont des musulmans? Non, mon frère, il savait que c'était des musulmans qui vont aller en enfer à cause de cette division. Mais les compagnons ne se sont pas préoccupés de savoir qui vont aller en enfer, parce que c'est une longue liste. Par leur sagesse, ils ont plutôt demandé quel groupe ira au paradis au messager d'Allah. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Le prophète dit, « Ma ana alayhi wa ashabi. » Ce dont je suis en train de pratiquer aujourd'hui avec mes compagnons. Et ces compagnons sont les qui pour nous? Ce sont les salafs pour nous. Ce sont les prédécesseurs pour nous. Lorsque nous appelons, lorsque tu dis que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec Albani, d'après son explication, Albani n'est pas le premier à appeler vers la salafia, qui est le chemin de ses prédécesseurs pieux, que le prophète alayhi salam fait ce bon témoignage pour eux, que parmi les sectes musulmanes qui vont échapper l'enfer, ou bien la secte parmi les sectes musulmanes qui va échapper l'enfer, sera celle qui va suivre, mais pas aujourd'hui avec ses compagnons. Les restes iront en enfer, les restes mériteront d'aller en enfer. Est-ce que ces restes-là ne sont pas des musulmans? Si nous restons aujourd'hui dans la division que nous vivons déjà, on dit cramponnons-nous seulement sur le nom qu'Allah nous a appelé. Alors que le prophète est en train de promettre l'enfer pour les musulmans, qu'allons-nous faire pour distinguer cette secte-là ou bien cette groupe-là qui reste et est resté sur le chemin de ses prédécesseurs pieux? Al-Bari n'est pas le premier à appeler vers la salafia. Bon nombre des érudits avant lui ont appelé vers la salafia. Les ulama de son temps, de son époque aussi appelé vers la salafia. Les Ulamas contemporains aujourd'hui appellent toujours vers le chemin de la Salafia. Pourquoi? Pour qu'on se voit sauvé des 72 sectes qui ont dévié les traces, la tradition et la coutume du prophète alayhi salatu wassalam. Si nous allons dans les livres, dans les grands livres, comme les Sierra Alam Nubala, tu vois, les Ulamas dès l'époque ont déjà parlé de ces mots Salafia. Donc Albani n'est pas le premier à parler de la Salafia. Albani n'est qu'un autre parmi ceux qui soutiennent ce chemin et veulent que les musulmans retournent sur ce chemin. Car ce n'est pas se cramponner sur l'appellation musulman qui va nous aider à être unis. Là, si l'islam, si le prophète alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par Allah, puis le prophète nous ont dit que cette communauté va se diviser et nous ont enseigné le chemin de la reçue, le moment de la division, nous allons toujours retourner vers Allah, vers son prophète alayhi salam, pour savoir quelle est la proposition divine pour la réunification des musulmans. Pour que les musulmans redeviennent encore unis, quelle est la cause? Ce n'est pas à nous de réfléchir. Ce n'est pas à nous de réfléchir, mon frère. Ça.
Vous venez avec une nouvelle appellation, mais c'est votre affaire. Moi, je ne suis pas contre ça. Même quand vous allez nous suivre, même dans nos prédications, ainsi de suite, on utilise toujours les termes de la salafia, non? On utilise ces termes-là pour parler de nos prédécesseurs, ainsi de suite.
Et quand tu dis dans cet audio, mon frère Abdelmajid, que vous venez avec une nouvelle appellation. C'est-à-dire, c'est une innovation. Ça veut dire, c'est une innovation autant pour toi. Et après, tu dis encore, tu n'es pas contre ça. Pourquoi quelque chose est innovation et tu n'es pas contre ça? Si c'était une nouvelle appellation, entre parenthèses, une innovation, selon toi, tu ne pourras plus dire que tu n'es pas contre ça. Où en es-tu donc de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala, où il dit je vous mets en garde contre les nouveautés, les choses nouvelles dans cette religion, car toute innovation est égarement. Comment tu peux traiter quelque chose de la nouvelle appellation, c'est-à-dire de l'innovation, et après tu dis que tu n'es pas contre cela? Si c'est une innovation, tu dois interdire cela. Tu dois mettre en garde contre cela comme le prophète l'a fait. Où en es-tu? Oh mon frère, avec la parole d'Allah qui dit, et avec la parole du prophète qui dit, Man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu biyadi. Fa'illam yastati fabilisani, fa'illam yastati fabiqalbi, wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète dit, quiconque de vous voit une chose blâmable, il doit chercher à enlever ses blâmes avec sa main, s'il a le pouvoir. S'il n'en en a pas, il va au moins parler, chercher à enlever cette blâme avec la bouche. S'il ne peut même pas, il doit détester au moins au fond de son cœur. Car c'est ça même le bas, le plus moins de la foi. Quand tu dis quelque chose est nouveauté, ça veut dire c'est innovation selon toi. Et tu dis encore bien après que tu n'es pas contre. Et après tu dis encore, mon frère, que vous-même, vous utilisez le mot salafia, yani dans vos prédications, dans vos prêches, etc. Mais je suis confus. Et vraiment, je suis confus. Si une appellation est nouvelle, entre parenthèses, innovation, selon toi, et tu appelles encore les gens vers ça, mais il faut que tu sois explicite, mon frère. Soit c'est une nouvelle appellation qui est bida que tu dois mettre en, yani que tu dois mettre les gens en garde contre cela. Soit c'est quelque chose important qu'on doit exhorter les gens vers ça. Là, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Si tu es en train d'appeler les gens vers la salafia, c'est une bonne chose. Maintenant, celui qui suit la voie de ces salafis là, allons-nous l'appeler qui? En langue arabe d'abord. Nous allons l'appeler qui? Si quelqu'un suit quelle voie, qu'allons-nous l'appeler? La langue arabe nous dit, on va l'appeler Salafiyoun. Et ça, quand on a un mot fradan, si c'est un nom singulier, si c'est le genre, on va dire Salafiyoun. Où est donc le problème ici? Si quelqu'un choisit d'appeler le chemin de la Salafia, ce n'est pas une fierté. Si quelqu'un s'attribue au Salafia, ce n'est pas une fierté. N'est-ce pas toi-même tu as appelé, comme tu viens de dire, si que tu appelles vers la Salafia, comment tu peux appeler vers la Salafia et tu condamnes l'appellation? Et je ne sais pas s'il y a un prédicateur qui se lève pour appeler les gens de s'appeler Salafia. Je ne sais pas. Mais tous les efforts est que les gens suivent le chemin, la méthodologie de ces gens. Et quand tu le suis, tu seras Salafi. Je crois que l'objectif c'est de suivre leur chemin. L'objectif n'est pas de se nommer Salafi. Comme Cheikh Fawzan Al-Hafizahullah nous dit parfois, il dit ce n'est pas tous ceux qui se nomment Salafi qui est Salafi. Ça veut dire ce n'est pas tous ceux qui s'appellent Salafia veut dire qu'ils suivent le chemin de la Salafia. Là, la Salafia, c'est de les suivre dans leur aqida et dans leur méthodologie, dans leur manhaj. Mon frère Abdul Majid, il faut que nous voyons ensemble. Et c'est que certaines de tes positions que tu énumères dans cet audio sont conformes au pas de ces salafs salafs. Moi, je parle selon l'audio ci en question. Je ne parle pas de tes autres audios, etc. Mais parlons d'abord de tes propos annoncés dans ces audios. Revenons avec ça sur la balance du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Est-ce que tes positions ci corroborent avec celle de nos prédécesseurs, puis que toi-même tu dis que tu appelles vers leur chemin?
Je ne connaissais-t-il pas les termes salafia? Je ne connaissais-t-il pas les termes chia, tijani? Ne connaissais pas ça. Toutes ces choses ont été échappées à la connaissance de Dieu. Bon, pourquoi Dieu a-t-il mis un accent sur l'appellation musulman?
Quand tu dis dans cet audio, frère Abdel Majid, que Dieu ne connaissait pas Salafia, Shia, Tijaniya, etc. Alors que tantôt tu viens de dire en haut que toi aussi tu appelles, tu utilises le mot Salafia pour encourager les gens de revenir sur leur chemin. Et si tu dis encore Dieu ne connaissait-il pas Salafia, Shia et Tijaniya, moi je vois que c'est similaire de ce que nous disent parfois les fumeurs, les alcooliques, en nous disant, montrez-moi dans le Coran où Allah a mentionné que la cigarette est interdite. Parfois, ils nous disent ça. Montrez-moi dans le Coran où Allah a mentionné que la drogue est interdite. Montrez-moi dans le Coran où Allah a mentionné que le whisky est interdit, la Beaufort, 33 et sport, musique. Montrez-moi dans le Coran, etc., etc. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit dans le Coran, en parlant sur son messager, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète ne parle jamais de sa passion, sauf une révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous a prédit par la révélation, par le biais de la révélation qu'il a reçue de son Seigneur, que ces musulmans qu'Allah les a appelés, nommés comme ça dans le Coran, seront divisés. Là, il n'y a même pas des débats en 73 sectes et les 72 mériteront l'enfer sauf une secte de ces sectes parmi les qui? Parmi les musulmans. 72 sectes musulmans sont exposés à l'enfer à cause de leur déviation sur le chemin du prophète alayhi salatu salam. L'hadith ne nous parle pas de kuffar ici, l'hadith nous parle des musulmans. Et le prophète nous a montré un groupe qui méritera, qui sera sauvé de l'enfer. Et le chemin que vont emprunter ce groupe qui sera sauvé. Et il nous a montré la solution pour s'unir. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que ce n'est pas à nous de réfléchir comment faire pour que les musulmans s'unissent à nouveau. Là, il faut plutôt demander... Est-ce que le prophète nous a enseigné La cause de ces faiblesses, la cause de ces divisions, etc. Le prophète dit إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَدِيتُمْ بِالزَّرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Le prophète dit lorsque vous allez commencer à commercer avec le riba, à s'occuper seulement de vos champs, de vos bétails, en abandonnant le jihad, qui est les efforts sur le chantier d'Allah, soit avec la langue, soit avec le bien, soit avec la force, Allah va vous couvrir avec l'ignominie et n'enlèvera pas cela jusqu'à ce que vous retourniez dans votre religion. Voilà donc la solution. Cette ignominie ne cessera pas d'être sur vous jusqu'à ce que vous revenez sur l'accomplissement de la religion d'Allah comme Allah le veut, pas comme nous voulons, pas comme nous voyons. Obéir à ses ordres, éviter ses interdictions et privilégier les affaires de l'au-delà, au-delà des affaires mondaines et combattre sur le chemin d'Allah. Voilà donc la solution que l'islam nous a proposée. Donc ce n'est pas à nous de s'asseoir sur la table pour réfléchir comment les musulmans doivent s'unir, pour voir ce qu'on doit faire pour que les musulmans s'unissent là. C'est de voir quelle proposition le prophète nous a donné. Si nous abandonnons la religion, nous abandonnons le Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, nous ne condamnons pas l'associationnisme, nous ne condamnons pas l'innovation, nous ne condamnons pas la mécréance, nous ne condamnons pas l'hypocrisie, nous n'avons pas la jalousie sur les choses sacrées d'Allah qui sont bafouées, les droits d'Allah qui sont bafoués, les lois d'Allah qui sont bafouées. Et après nous prétendons l'union des musulmans, est-ce que cela va se faire d'après cet hadith? Ça c'est impossible. Allah nous pose la question, c'est à nous d'enseigner à Allah sa religion, mais c'est Allah qui va nous enseigner sa religion. Donc revenons sur la base, Inch'Allah, même si on n'aboutit pas, on met seulement la fondation, les autres pourront aboutir sur notre place, mais si nous voulons brûler les étapes, parce que nous avons le souci des musulmans qui s'unissent en abandonnant la proposition prophétique, en abandonnant la fondation, là nous allons faire un jeu où il n'aura pas des résultats fiables.
Mais moi, j'ai connu Diabaté chez le Cheikh Haïdara du Mali. C'est là où je l'ai connu. Et c'est un frère, un bon frère. Qu'il soit chiite, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, c'est pas mon problème. Quand il s'agit de débattre avec lui sur notre croyance ou bien nos croyances, là, il y aura débat entre moi et lui. Mais il reste un frère à moi. Tout comme nous avons tous. Même vous pouvez avoir des chrétiens dans votre famille. Vous refusez de leur parler parce qu'ils sont chrétiens. Vous n'exhiberez que votre ignorance. Je vous ai dit que Soudeï, c'est l'imam de la Mecque. Il a des photos avec des rabbins juifs, non? Il se retrouve dans des assemblées avec des rabbins juifs. Est-il devenu juif parce qu'il était avec des rabbins juifs? Moi, je suis devenu chiite parce que j'étais avec j'ai des frères. Ici même, j'ai des amis, des très bons amis, des très bons frères des chiites. Je les fréquente et je les fréquenterai toujours. Moi, je ne suis pas comme vous, mon frère. Je ne suis pas un hypocrite comme vous.
Mon frère Abdelmajid, tu qualifies de bon frère le chiite, que le chiite est un bon frère. Subhanallah. C'est lui qui traite les compagnons du prophète, alayhi salam, salam, des incrédules, des mécréants. Tu dis que c'est un bon frère. C'est lui qui traite la femme la plus aimée du prophète alayhi salatu salam et sa co-épouse Hafsa radiallahu anhuma, des fornicatrices, de celles qui ont assassiné le prophète, de celles qui ont empoisonné le prophète. Tu dis que c'est un bon frère. Ceux qui traitent les deux premiers ministres du prophète alayhi salatu salam, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, des hypocrites, des mécréants, des apostats, tu dis que c'est un bon frère pour toi. Alors que le prophète alayhi salam nous dit dans cet hadith, apporté par Tirmizi, en Abdullah ibn Mughaffa al-Muzani, radiallahu anhu, le prophète dit Allah, Allah, fi ashabi, la tattakhidouhum gharda ba'di. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. Le prophète nous dit dans cet hadith, mon frère Abdul Majid, que craignez Allah sur mes compagnons, ne les prenez pas comme des cibles après moi. Quiconque les aime, ce n'est pas mon amour qui les a aimés. Si tu aimes les compagnons du prophète, c'est parce que tu aimes le prophète. Quiconque les déteste, c'est pas ma haine qui les déteste. Quand tu détestes les compagnons du prophète, ça veut dire que tu détestes le prophète. Roman adahum fakat adani. Le prophète continue en disant, celui qui nuit à mes compagnons m'a certes nuit. Roman adani fakat adallah. Et celui qui m'a certes nuit, moi le messager d'Allah, tu as certes nuit Allah. وَمَنْ آذَ اللَّهِ Celui qui nuit à Allah, يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَ Il se peut qu'Allah l'attrape et le punisse dans ce bas monde. Comment peut-il être celui qui insulte les compagnons du prophète, qui proclame sa haine envers les compagnons du prophète, tu peux lui dire qu'il est un bon frère pour toi, Abdul Majid, Abdul Majid. Pourquoi tu peux traiter celui qui nuit au prophète alayhi salatu salam en nuisant ses compagnons qu'il est un bon frère? Comment tu peux dire à celui qui nuit à Allah parce qu'il a nuit au prophète et à ses compagnons que c'est un bon frère pour toi? Est-ce que la haine des chiites vis-à-vis des compagnons du prophète est quelque chose encore dissimulé aujourd'hui? Au point où toi, Abdul Majid, tu dis encore qu'un chiite c'est un bon frère? Où en es-tu donc des paroles de ses prédécesseurs pieux vis-à-vis de ceux-là qui ont dévié le chemin tracé par le prophète alayhi salatu wasalam? Imam Malik rahimahullah nous dit: Man kana yubghidu ahada min ashabi Muhammadin, quiconque déteste à la haine pour un des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, ou kana fi qalbihi alayhim ghil, ou bien quiconque encore dans aucune rancœur pour l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, alayhi salahu haqqun fi fayi muslimin. Imam Ali dit, ce dernier n'aura pas de droit de bénéficier le butin des musulmans. Après Imam Ali récite ce verset, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Imam Malik nous récite ce verset après sa parole en disant: Oh Allah dit, ceux qui vont venir après eux, ceux qui vont venir après les Muhajirun et après les Ansar, il revient à ces derniers d'implorer Allah en ces termes: Oh Allah, expie nos péchés, expie aussi les péchés de nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets pas la rancœur, ne place pas la rancœur dans notre cœur, oh Allah, vis-à-vis de nos frères croyants. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu es le miséricordieux. Si Allah nous recommande de faire le doigt à ces premiers musulmans, parce que nous sommes leurs frères. Et les chiites aujourd'hui, dans leur religion, tu ne peux pas être chiite si tu n'insultes pas ses compagnons, si tu n'as pas la haine contre ses compagnons, si tu n'as pas la rancœur dans tes cœurs vis-à-vis de ses compagnons, tu n'es pas chiite. Et tu dis que c'est un bon frère. Que dirais-tu si tu avais fait face à face avec Imam Malik? Que dirais-tu si tu avais fait face à face avec ses prédécesseurs? Sur ça, le prophète alayhi salam dit encore: Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Le prophète alayhi salam dit: les signes de la foi complète, c'est l'effet d'aimer les ansars, et les signes de l'hypocrisie, c'est l'effet de détester les ansars. Comment tu peux dire, frère Abdul Majid, mon frère, reviens un peu derrière. Jésus, que tu n'es pas un bouc moutonnier. Réfléchis un peu, mon frère. Comment tu veux dire à celui qui déteste les compagnons, qui insulte les compagnons, qui enseigne la rancœur des compagnons à leurs enfants, à leurs épouses, que c'est un bon frère pour toi? Alors que le prophète dit, le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les enfants. Le prophète dit encore, la yuhibbuhum illa mu'min. Personne ne peut aimer les ansars qui sont les compagnons du prophète qu'un croyant. Wala yubghiduhum illa munafiq. Personne ne peut les détester sauf un munafiq, un hypocrite. Faman ahabbahum ahabbahullah. Quiconque aime les ansars, Allah va l'aimer. Faman abghadahum abghadahullah. Quiconque déteste les ansars, Allah va les détester. Mon frère Abdul Majid, est-ce que les chiites aiment les ansars? Si c'est oui, ce sont nos frères. Est-ce que les chiites, dans leur religion, ils détestent les ansars? Si c'est oui, c'est qu'ils n'ont pas nos frères. Combien de fois encore tu dis un bon frère? Tu dis encore un bon frère? Non, il faut craindre Allah, mon frère. C'est ça, Ibn Abbas, radiallahu anhu, pour voir comment nos prédécesseurs, que tu as même dit toi-même, que tu appelles aussi vers leur trace, comment ils étaient rudes envers les innovateurs. Ibn Abbas dit, « Ma fil ardi qawmun abghadu ilayya min an yaji'ani, an yaji'uni, ayukhasimuni min akadiriya fil khadr. » Il dit, « Je n'ai pas un peuple que je déteste plus qu'il vient auprès de moi pour me demander le débat que les qadiriya. » Voilà Ibn Abbas qui a traité les gens de Qadiriyya. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas des musulmans. Ils étaient des musulmans. Mais ils les appelaient les Qadiriyya pour les distinguer de ceux qui veulent suivre la voie tracée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Vas-tu dire à Ibn Abbas pourquoi il a dit Qadiriyya sans dire musulmans? Allah avait ignoré qu'il y aura les Qadiriyya. Il dit qu'il les déteste. Mais toi, tu dis plutôt à ceux qui détestent ses compagnons que c'est un bon frère. Ibn Omar, lorsqu'il a appris que ces mêmes Qadiriyya, ils ont rejeté le sixième pilier de la foi qui est le destin d'Allah, qui est le destin venant d'Allah, soit le destin favorable ou défavorable. Ibn Omar n'a pas dit que ce sont nos frères, nos bons frères musulmans. Il a dit, si vous rencontrez ceux-là, dites-leur qu'Ibn Omar les a désavoués. Et ils doivent aussi faire de même. Qui désavoue Ibn Omar, nous n'avons pas le lien entre eux. N'était-il pas des musulmans? Ibn Omar ne savait pas que Allah nous a appelés tous dans le Coran musulmans. Ibn Abbas ne savait pas que Allah savait qu'il y aura les Qadiriyya. N'est-ce pas, une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha lui posant la question que une femme va rembourser la prière après les mensuits. Qu'est-ce que Aïcha lui dit? Aïcha lui dit, Ahaouriya tunanti, tu es Harouriya. Tu es extrémiste, tu es mina khawarij. Aïcha ne connaît-elle pas que Allah nous a appelés dans le Coran musulman? Peux-tu aussi poser ces questions à Aïcha radiallahu anha? Dans la maison de qui la révélation descendait? Que pourquoi elle a traité un musulman de Harouriya? Pourquoi Ibn Abbas a traité des musulmans de Qadiriyya? Pourquoi Ibn Omar a rejeté ces musulmans alors que Allah nous a appelés dans le Coran des musulmans? Mon frère, wallahi, il faut un mazhabihi, et tu acceptes yani son point de vue religieux, et tu acceptes son idéologie. Ne prends pas comme ami, sauf celui que tu as agréé, tu as accepté sa religion et son idéologie. فَإِنَّكَ إِذَا خَالَلْتَهُ قَادَكَ إِلَى دِينِهِ وَمَذْهَبِ. Car l'homme que tu vas prendre comme ami va te conduire vers sa religion et son idéologie. Ça, c'est le commentaire d'un alim suivant l'hadith, comme tu avais dit, que tu ne suis la parole d'un érudit ou bien d'un être humain, sauf si cela est en corroboration avec la parole d'Allah et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà le prophète qui nous exhorte à choisir des bons amis, qui ne nous laisse pas le choix d'en prendre n'importe qui comme ami. C'est pour ça, Ayubu Asishtisani, Ayubu Sitani, Rahimahullah, il dit, j'avais dit à Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ara rajula min ahli sunna ma'a, rajula min ahli bida. Mais Je vois un homme de la Sunna, il est toujours avec un homme de la Bida, avec les gens de la Bida, les gens de l'innovation. Atroku Kalama, dois-je me tourner le dos à ces derniers? Dois-je laisser de lui adresser la parole? Ah là là, Imam Ibn Hanbal dit non. Ne coupe pas directement la parole. Il faut plutôt l'enseigner que l'homme avec qui il côtoie, l'homme avec qui il est avec lui, est un innovateur. Si tu l'enseignes que ce dernier est un innovateur, et nous connaissons bien le danger de l'innovation dans l'islam, et ce que l'innovation a déjà fait dans cette communauté et a déjà fait sur les musulmans. Il dit, si tu l'enseignes que c'est un homme que tu le côtoies, tu as pris comme ami et un innovateur, il rompt avec ces derniers, là, tu vas continuer, toi aussi, à parler avec lui, à s'adresser la parole, mais au cas contraire, malgré la mise en garde, que tu dis, ceci est un innovateur, il est, mais le monsieur continue toujours à le fréquenter, on va l'attribuer, on va le considérer comme son ami. Parce que nous ne pouvons pas dire que tu peux être un croyant et tu es l'ami des mécréants. Ça n'a jamais existé. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, les hypocrites ont voulu jouer ce rôle-là. Mais finalement, ils ont fini par choisir leur camp. Tu ne peux pas être un pied, tu ne peux pas être dans une même année le jouet de deux équipes. Tu signes à Barcelone, tu signes à Real de Madrid, ça c'est impossible. Ou tu choisis une équipe, tu joues là-bas. C'est pour ça mon frère, Abdul Majid. Où en es-tu avec ton point de vue-ci? D'après les points de vue et les positions et les paroles des prédécesseurs pieux, que toi-même tu dis que tu appelles aussi à les suivre. Mon frère, Abdul Majid, soit tu ne connais pas vraiment qui sont les chiites et leurs croyances, ou soit tu ne les connais qu'à travers leur politique de propagande anti-américaine qu'ils font là pour détourner l'attention des musulmans, de leur haine pour l'islam et pour les musulmans. Ou bien tu connais, mais tu veux passer inaperçu comme si rien n'était. Oui, dans cet audio, mon frère, tu as traité certains frères des hypocrites. Mais lorsque j'entends ton audio, c'est comme si tu es en train de converser avec l'un de ces frères qui prône la salafia. Et tu l'as traité des hypocrites. Tu l'as traité des hypocrites. Alors que tu dis aussi que tu appelles aussi vers la salafia. Est-ce que sais-tu que dire à un musulman, qu'il est hypocrite, c'est de lui dire en d'autres sortes qu'il n'est pas musulman? Parce que l'hypocrisie, c'est un grand péché qui sort quelqu'un de l'islam. L'hypocrisie, c'est la sœur de la mécréance, c'est la sœur de l'associationnisme. Sais-tu que c'est ça, c'est l'idéologie des Khawarij, des extrémistes. Et malheureusement pour moi, j'ai déjà eu à écouter certains de tes audios où ces expressions se répètent. Où tu as dit dans un de tes audios que celui qui tue un musulman volontairement n'est plus musulman. Tu vois, c'est le problème de la base, c'est le problème de la aqida. L'effet de sortir un musulman de l'islam, facilement comme ça, quand tu dis à un musulman, vous êtes des hypocrites. Al-shaqaqta qulubahum, est-ce que tu as fendu leur cœur pour voir, pour détecter la croyance qui est dedans afin de les traiter des hypocrites et de confirmer cela? Parce que tu as confirmé en disant, ils savent ce qu'Allah a réservé aux hypocrites le jour de Qiyam. Ça c'est grave mon frère. Où en es-tu avec la parole de Ali ibn Abi Talib lorsqu'on lui posa la question sur les Khawarij qui ont déserté le rang des musulmans, traité des compagnons des mécréants? Lorsqu'on a posé cette question à Ali ibn Abi Talib, à Kuffaruhum, ces gens nous traitent des mécréants, sont-ils mécréants? Il a dit, min al-kufri farru. C'est les mécréants qu'ils ont fui et entré dans l'islam. Comment je dois les sortir de l'islam facilement comme ça? Comme tu viens de dire à tes frères. On lui a dit, famuna munafiqunahum, s'ils ne sont pas des mécréants, ils sont des hypocrites alors. Qala innal munafiqina la yaskuruna Allah illa qalila. Les hypocrites ne se rappellent d'Allah que peu. Mais celle-là prie, il lit. Et Juan, on a Abaro Alena, c'est nos frères musulmans qui ont transgressé sur nous. Voilà les pieux prédécesseurs qui évitaient ces mots. Et lorsque certains compagnons ont fait l'aventure de prononcer ces mots à leurs frères, le prophète a refusé cela. Le prophète les a blâmés contre cela, contre le fait de traiter un musulman d'hypocrite. C'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wala tanabazu bil alqab. Qatada ibn Di'ama, rahimahullah, il dit, dans ce verset, Allah dit, ne vous injuriez pas mutuellement avec des sobriquets. Abu Qatada dit, qala taqul li akhika muslim ya fasik ya munafik. Ne dis pas à ton frère musulman que toi tu défends même cette appellation, que c'est cette appellation qui est dans le Coran. Il dit, ne dis pas à ton frère musulman que tu confirmes son islam que ya munafik. Oh pervers, ya fasik, oh pervers, ya munafik, oh hypocrite. Yani, il faut éviter ce genre de paroles. C'est pour ça, chef, mon frère Abdul Majid, réfléchis sur ces audios. Comme tu avais dit que tu es l'homme qui ne fait pas de complexe, tu es l'homme qui aime la vérité, qui veut revenir sur la vérité. Écoute cet audio attentivement et pose-moi avec un cœur ouvert et tu vois ce que tu as fait de mal. Si il y a encore l'ambiguïté dans cela, j'attends la réponse pour qu'on puisse continuer dans la douceur.
Moi, je vous dis que ici, chez nous, ici à Kinshasa, nos frères arabes et saoudiens de la CPEDEC, quand ils ont appris que je devais aller en Iran pour aller participer à un séminaire, ils m'ont dit, mais pourquoi aller en Iran? Je dis non. Pourquoi? D'abord, l'Iran, c'est un pays islamique qui fait la fierté même des musulmans sur le plan politique et militaire. L'Iran. Ça, c'est une évidence, ça. À moins que vous soyez une grenouille au fond du puits qui ne voit qu'une partie du ciel, un fanatique qui n'a rien à voir, des gens qui prétendent connaître l'Akrida, mais qui se font manipuler par des poufards. Il est en train d'Iran, c'est une expression pratique d'un verset du Saint-Coran. Si est clair, le seul pays qui met en pratique ces versets, c'est l'Iran. Qu'il soit chiite, qu'il soit sunnite, c'est pas mon affaire. Salman Aoud a dit, les systèmes politico-islamiques de l'Iran, proches de l'islam, que le système de l'Arabie Saoudite et autres. C'est, vous pensez que la royauté est un système islamique? Qui t'a dit que la royauté est un système islamique? Ça, tu connais. Awal Mani Yubad Biloudina, Sunnati. Ravul Mimbani Mouma, tu sais, qui a changé les khilaf en introduisant les mulk. Tu le connais, non?
Mon frère, dans cet audio, je vois que l'hadith du prophète qui nous a dit précédemment, que j'ai mentionné précédemment en disant, choisissez bien vos amis, car l'homme est toujours dans la région de ses amis. Ne sens-tu pas que tu as commencé à prêcher le schisme sans te rendre compte? Quand tu dis l'Iran est un pays islamique, quel pays islamique, mon frère? Là où on vénère les tombes, là où le pays des mausolées, là où la démocratie règne, là où on défile avec les plancards écrits « Oh Allah maudit Abu Bakr, oh Allah maudit Omar, oh Allah maudit Aïcha, oh Allah maudit Hafsa. » Quel pays islamique s'agit-il? Oui, comme tu viens de dire, l'islam fait la fierté des musulmans sur le plan militaire et le plan politique. Où est le plan islamique? Et tu dis, tu t'en fous. Si les chiites ou bien sunnites, ça veut dire le plan islamique, tu t'en fous. Mais tu te sens fier parce que c'est la fierté des musulmans sur le plan militaire et sur le plan politique. La fierté de l'islam et des musulmans ne se limite pas seulement à étaler le drapeau américain et marcher dessus en défilant. Non, c'est plutôt faire régner la loi d'Allah. C'est plutôt ébranler l'étendard de l'unicité d'Allah. C'est plutôt propager la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non, ne nous laissons pas et aller distraire par l'Iran d'après tous ces mascarades qu'ils font là. Oui, c'est vrai, comme tu viens de dire. Tu t'en fous si l'Iran est chiite ou bien sunnite. Mais à ma grande surprise, tu te préoccupes de la manipulation des mécréants de l'Arabie Saoudite. Tu prétends connaître la Aqida. Pourquoi tu ne t'en fous pas aussi de cette manipulation, mon frère? Si l'Arabie Saoudite prétend la Aqida, comme tu le dis, où allons-nous trouver donc la vraie Akida? En Iran? Subhanallah. Tu vois que tu es rythmé et charmé par le mouvement. Que fait l'Iran au nom de l'islam? Alors qu'il est loin de l'islam. Tu vois, tu es rythmé, tu es motivé par le mouvement que l'Iran fait au nom de l'islam. Pas pour l'islam, mais au nom de l'islam. Pas pour l'islam et son enseignement. Non, Allah ne nous a pas créés pour faire le mouvement militaire et le mouvement politique. Allah nous a créés pour un objectif. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, que pour me singulariser dans l'adoration, etc. Et ce que nous vivons en Iran, est-ce que le tawhid règne en Iran, mon frère? Est-ce que la sunna du prophète règne en Iran, mon frère? Est-ce que la voix des prédécesseurs règne en Iran, mon frère? Et tu dis que tu t'en fous de cela, et tu te préoccupes plutôt de leur mouvement politique, de leur mouvement militaire, de leur propagande anti-américaine, et tu te préoccupes de la manipulation des koufars de l'Arabie Saoudite. Moi, je suis étonné. Car tu te préoccupes de la manipulation des mécréants sans te préoccuper de la mécréance elle-même que propage l'Iran au monde entier. Ne vois-tu pas que tu es en train de valoriser le schisme? Voici la deuxième preuve. Que ton rapprochement va te rendre chiite. Qu'Allah nous en préserve et t'en préserve aussi. Ton rapprochement de ceux-là peut te rendre chiite. Vu la vie du prophète alayhi salatu salam et le commentaire d'Imam Khattabi. Voilà la deuxième preuve. Que tu prends encore l'hadith malade, l'hadith qui est malade, l'hadith qui n'est pas authentique, l'hadith qui utilise les chiites pour dénigrer les omeyyades. Pour t'argumenter avec. Ne vois-tu pas que c'est déjà un danger? Peut-être que tu ne te rends pas compte. L'hadith que tu as apporté là, en disant, ma awal mambadda la sunnati, rajul min bani umayya, wa fi riwaya wa huwa yazi. Bukhari dit, l'hadith là est ma'loul. C'est un hadith malade. Bayhaqi dit mursal. C'est un hadith mursal. Ibn Kassir dit da'if, munqati. L'hadith est faible. Même si, l'hadith était authentique. Est-ce que ça parle de l'inexistence du royaume? Non, ça ne parle pas de l'inexistence du royaume. L'hadith mentionne plutôt si c'était authentique que le royaume ou bien la succession ou bien le royaume sera changé de fils en père, alors que c'était le droit de tous les musulmans. Si c'était l'hadith authentique, malgré que l'hadith n'est pas authentique. Si cet hadith, mon frère, tu as tiré une petite conclusion en disant le royaume n'est pas un système islamique. Peux-tu m'expliquer cet hadith où le prophète alayhi salatu salam dit al-khilafatu nubuwa ou khilafatu nubuwa salasuna sana summa ya'ati Allahu al-mulk ou summa yu'ti Allahu al-mulka ou mulkahu man yasha wa fi riwaya summa takunu ba'da dhalika mulkan. Et vous faites ici ma succession, la succession de la prophétie prendra 30 ans. Et après, Allah va donner la royauté. Ou bien sa royauté à qui il veut. Et dans une autre version, après, ça sera le roi. Peux-tu m'expliquer cet hadith, mon frère? Dis-moi combien de fois, à l'époque des salafs, que tu dis d'être celui qui appelle aussi vers leur voix. Dis-moi combien de fois ils ont fait les élections présidentielles, les élections municipales, les élections pour élire un président où l'on va devenir président par la majorité absolue, où l'on va remporter les élections par la majorité absolue. Combien de fois cela s'est déroulé pendant le temps des salafs? Il n'y a jamais eu cela. Car cette voie empruntée par tout le monde, par la majorité des pays musulmans aujourd'hui, y compris l'Iran, c'est la voix des mécréants que vous prétendez les combattre, que vous prétendez être les antis. Comment vous pouvez chercher à combattre les gens et vous suivez leur pas? Vous suivez leurs lois, vous suivez leurs habitudes, vous suivez leurs comportements surtout. Oui, c'est un pays islamique. Comment l'islam choisit L'islam a dit de choisir son dirigeant comment? Ah, ça c'est un peu dangereux, mon frère. Ça c'est un peu dangereux, mon frère. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il vous guide aussi.
Je, wallah billahi, si j'étais, parce que j'ai appris seulement quand on a fait des mises en garde contre Diabaté, mais je ne savais pas où Diabaté séjournait, quoi, ici à Kinshasa, où il habitait, je ne savais pas. Wallah, si je l'avais su, je serais parti lui rendre visite, parce qu'il m'a très bien accueilli chez lui là-bas. Et je parlerai toujours avec lui. Et il reste chiite, et moi j'ai une autre tendance. Mais il est musulman, chiite, moi je suis musulman. Je suis musulman. Ma tendance est à moi, musulman. Je vous ai dit que je suis né dans un environnement sunnite de l'imam Shafi'i. Mais finalement, je me dis, moi, je suis musulman. Je suis au-dessus de toutes ces choses-là. Tout ce qui est, toute vérité, d'où qu'elle vienne, si c'est une vérité confirmée dans le Coran et la Sunna, je la prends. C'est simple. Quand tout ce mavéré boulard, tout ça, ça n'a jamais existé à l'époque du prophète, ou à, moi encore à l'époque des sahabes. Ce sont des choses qui ont vu jour après et qui n'ont contribué qu'à diviser les musulmans et à affaiblir les musulmans.
Mon frère, un musulman ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est au-delà de tendance. Sinon, le prophète alayhi salam aurait averti sur le néant. Sinon, le prophète aurait mis en garde sur le néant. Allah nous aurait défendu sur le néant. Lorsqu'Allah dit, ne vous divisez pas. Le prophète dit, j'ai demandé, mais Allah, qui ne nous divise pas, qui ne nous laisse pas diviser, Allah n'a pas accepté. Tu ne peux pas venir au Dieu dire que tu es au-delà de la tendance. Non, tu es dans la tendance et nous sommes dedans. La tendance, ou bien le phénomène de la tendance aujourd'hui est semblable à une pluie qui s'abat sur le pays. L'homme ne peut pas dire, je m'en fous de la pluie. Je suis loin de la pluie, ça ne me regarde pas la pluie. Jamais. Jamais. Si tu ne t'abrites pas, ça te mouille. Si tu ne te couvres pas, tu auras froid. Nous vivons la tendance. La seule solution, c'est la solution que le prophète a indiquée, a enseignée à ses compagnons pour que nous les suivons dans ça. Tu ne peux pas dire que tu es au-delà de la tendance. Non, ça ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas. L'homme peut le dire, mais le prophète avait-il les musulmans? Yani, l'homme peut le dire. Mais c'est ses actes qui nous diront. Ses actes et ses attitudes. Qui nous diront où il se trouve. Parce que tu ne peux pas vivre aujourd'hui sans se trouver dans une tendance. Et tu n'as pas besoin, l'homme n'a pas besoin, un musulman aujourd'hui n'a pas besoin de nous dire je suis tel, je suis tel, je suis tel. Là, parle seulement. Et on connaît qui tu es. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler de la religion, on saura là où tu es. Car il ne suffit pas seulement de dire aujourd'hui que je suis. Avec la bouche. Que je suis sunni, je suis salafi, je suis. Non. Mais c'est plutôt la conception de l'autrui. Et son point de vue de la situation qui va le classer, qui va lui donner sa tendance où il se trouve. Je ne sais pas comment peux-tu dire, mon frère, au temps du prophète alayhi salam, ces choses n'ont pas existé. Alors que les musulmans étaient unis. Sur un seul dogme, le temps du prophète. Est-ce qu'il y avait la division au temps du prophète? Le prophète est décédé, il a laissé les musulmans sur un seul aqida. Une seule voix. Il n'y avait pas de divergence. Malgré qu'il les a dit qu'après longtemps, vous allez voir cela. Donc le prophète a prédit ce qui n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu. La tendance a commencé. Autant de compagnons, ils ont vécu. Ali ibn Abi Talib a vécu les Khawarij. Ils les ont traités des Khawarij, comme l'a dit de Aïcha que je viens de mentionner. Aïcha a appelé une femme à Harouri et Tunanti. Les compagnons ont su qu'il y a une tendance qui est sortie appelée Khawarij. Les compagnons ont su qu'il y a une tendance sortie appelée Qadiriyya. Les Tabines ont vécu les Mu'tazila. Ils ont vécu le Mu'tazila, ils ont vécu le Jabariya, ils ont vécu le Murji'a. Ce que nous témoigne, cela, c'est la parole de Ibn Sirin, qui est l'élève, il est Tabi'in, l'élève des Tabi'in, qui dit, Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Les compagnons n'avaient pas le temps de demander, dis-nous la chaîne de ta transmission jusqu'au prophète. Et pourquoi? Parce que, kulluhum Parce que tous c'était des gens corrects et directs, dignes de confiance, qui ne forgeaient pas le mensonge au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Sirin dit falamma waqa'atil fitna. Lorsque la fitna est tombée, qalu, tous ceux qui parlaient du prophète disaient sammulana rijalakum. Yani, dites-nous qui sont vos enseignants, dites-nous chez qui vous avez pris vos hadiths. فَيُنْذَرْ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذْ حَدِيثُهُمْ afin qu'on voit qui sont les Ahlus Sunnah pour prendre leurs hadiths. وَيُنْذَرْ إِلَى أَهْلِ بِدَعِي فَلَا يُؤْخَذْ حَدِيثُهُمْ et on voit qui sont les innovateurs pour laisser leurs hadiths. Pourquoi tu peux dire autant de compagnons ils n'ont pas su ces genres de tendances? Sur ça mon frère, je te recommande aussi de beaucoup lire. Comme tu passes beaucoup de temps à lire la Bible, à la maîtriser. Wallah, il passe aussi beaucoup de temps comme ça à lire des livres islamiques. Ça va t'édifier dans beaucoup de choses concernant ta religion, qui est d'abord ta première responsabilité.
Mais finalement, je me dis, moi, je suis musulman. Je suis au-dessus de toutes ces choses-là. Tout ce qui est, toute vérité, d'où qu'elle vienne, si c'est une vérité confirmée dans le Coran et la Sunna, je la prends. C'est simple. Car toutes ces maverreboula, tout ça, ça n'a jamais existé à l'époque du prophète ou moins encore à l'époque des sahabes. Ce sont des choses qui ont vu jour après et qui n'ont contribué qu'à diviser les musulmans et affaiblir les musulmans. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est ça. La photo là, c'est une belle photo. Les chiots, les lingas et les autres étaient là à l'aéroport. Moi, j'ai pris cette photo avec lui et j'en prendrai encore d'autres. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Parce que vous pensez que lorsque je prends... Donc, si j'ai des amis chrétiens que je prends... Pourquoi vous n'allez pas dire quand j'ai des amis... Si j'ai des amis chrétiens que je prends des photos avec eux, donc je suis devenu chrétien. Vous savez pourquoi? C'est quel raisonnement? Donc, moi, aujourd'hui, je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, des frères chiites qui sont ici, des Congolais. Je dois m'éloigner d'eux parce qu'ils sont chiites. Vous savez dire quoi, ça? C'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, mais Dieu ne nous a pas interdit d'avoir de très bonnes relations avec tous ceux qui ne nous combattent pas dans notre religion. Qu'ils soient juifs, chrétiens, animistes. Dieu ne nous a pas interdit ça.
Wallahi, mon frère, ces expressions ne méritent pas que ça vienne de toi. En disant, oui, il faut que tu aies de très bons amis chiites. Non. D'après ce que j'étais... dit là au-dessus. Je crois que j'attends ta réponse sur ça. Inch'Allah, j'attends ta réponse sur ça. Lorsque Allah, tu dis qu'Allah ne nous a pas interdit d'être en bonne relation avec ceux qui ne nous combattent pas. Ici, là, tu n'as pas fait la différence entre être juste envers les non-musulmans ou bien les juifs chrétiens ou bien les ennemis de la Sunna. Et les prendre comme amis. Il faut faire la différence entre deux choses. Il y a la différence entre être juste avec quelqu'un, commercer avec lui, parler avec lui, et être ami avec quelqu'un où tu le fréquentes, tu lui rends visite, vous changez les idées, etc. Ça, c'est prendre quelqu'un comme un ami. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, verset 118, autant pour moi. Allah dit, oh les croyants, ne prenez pas des confidents en dehors de vous-même. Ne prenez pas des confidents qui ne sont pas les croyants comme vous-même. Comment tu peux dire que tu es né dans un environnement sunnite de la mazhab des Shafi'i et tu dis que tu as des très bons amis chiites, des amis juifs et chrétiens? Ça ne se dit pas. Ça ne doit pas se faire. Allah dit, oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. En fait, tu crois que tout ce que les chiites font là, en te rapprochant, en finançant peut-être ton voyage en Iran pour le séminaire, etc., tu crois que c'est pour rien? Mais ça a déjà commencé à faire l'effet. Quand tu fais déjà les éloges de l'Iran en disant que tu t'en fous de ce qui se passe là-bas dans le schisme, c'est déjà un danger. Ils sont là pour vous bouleverser et ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Je sais, Imam Qurtubi, rahimahullah, il dit dans ce verset, « Na Allahu mu'mini li hadhihi aya » Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans dans ce verset de prendre des kuffars, en ya'akhuzu min al-kuffar wa yahoud wa ahli al-ahwa dukhala'a wa wulaja. Yani asdika wa muqarrabi. Imam Qurtubi, rahimahullah, il dit, Allah dans ce verset a défendu, a interdit aux croyants de prendre des kuffars, des juifs, des innovateurs, comme des amis. Qui les approche, les uns s'approchent aux autres, ils changent de parole. Yufawiduhum fil ara, ils prennent souvent des idées d'eux, ils changent des idées. Wasnuduna ilayhi umurahum. Parfois, certaines de leurs affaires sont entre leurs mains. Tout c'est interdit, mon frère. Est-ce que ta position est celle de nos prédécesseurs pieux? Mon frère, c'est la question. Ce n'est pas les injures. Mais revenons un peu derrière. Je sais que peut-être les frères t'ont un peu pressé, t'ont balancé dans les réseaux sociaux, comme tu as dit dans cet audio. Peut-être tu parles maintenant farouchement, en oubliant que non, c'est le problème de ta religion. Ne prends pas ça comme une vengeance personnelle. Non. Tu peux être un prédicateur de la salafia sans être avec eux, sans travailler avec eux. Mais tu fais ta da'wa seul. Mais pourvu que vous vous rencontrez sur le chemin de la da'wa, sur la même idéologie, le même chemin, la même méthodologie. Mais ne prends pas ça comme une affaire personnelle où tu dis, même si tu, comme eux, ils ont mis ce Diabaté qui est le leader des chiites du Mali, comme on les a mis en garde, tu devais le chercher tout et tout. Pourquoi? Yani, pour mettre les autres en colère. Et sans plutôt regarder qu'est-ce que le Coran nous dit et qu'est-ce que l'Hadith nous dit. Donc voilà ce que j'avais préparé pour essayer de contribuer à la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Ad-Din al-Nasiha. La religion c'est le conseil. La religion c'est le conseil. J'attends vivement et je souhaite aussi vivement que vous répondiez à mon message, que vous ne le considérez pas comme bredouille. Inch'Allah, je suis à l'écoute. Que Allah nous guide et nous préserve. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.